10h26, hey, c'est le fun de vous voir sur les textos, vous jaser comme pas possible de plus en plus. Puis Audrey est très heureuse de ça.
Mais mon Dieu, moi quand il y a du monde,
mais
ça va.
Il semble plus souvent prendre ton côté que le mien.
Je sais pas pourquoi, Yann.
Je sais pas.
Écoute, c'est... on peut leur poser la question.
Je suis un peu à part. 418-971-1021. Continuez de nous écrire, puis on vous salue aussi sur Twitch si vous êtes là. Vous êtes capable d'entendre tout ce qu'on se dit pendant les pauses. Des fois, on révèle des secrets. Hey, 10h27, quel plaisir d'accueillir un nouveau chroniqueur. Son nom, c'est Danny Morissette. C'est un ancien policier de la Sûreté du Québec. Danny, très heureux de te rencontrer. Est-ce que tu me permets de te tutoyer?
Ben oui, absolument.
Des fois, il faut vous voir. Quand le policier est en face de nous, si on le vous voit, des fois, on peut se sauver d'un ticket. Parce qu'on est comme poli.
On est plus poli, c'est vrai, c'est un truc. Ouais. C'est un truc qui fait le gros sourire, puis je suis vraiment désolée, monsieur l'agent, tout ça, là.
Toute une carrière que tu as eue dans les services de police. Tu as été au crime majeur, tu as travaillé pour la GRC, tu as été aussi avec Interpol sur certains dossiers. Tu étais responsable de la division de l'intervention sur le crime organisé à Québec. Tu as été policier pendant combien d'années?
Pas loin de 27 ans.
27
quand
ans.
Quand même, hein?
Ouais. Là, tu es un jeune retraité.
Oui, depuis le 18 mai, déjà.
OK, mais c'est encore tout frais.
C'est tout frais, tout nouveau. Bien heureux.
T'as-tu perdu tes réflexes policiers quand t'es sur la route?
Non. Mais moi, je suis plus un gars d'enquête, je vous dirais, que ça patrouille.
Ouais. Mais on perd pas nos réflexes, même à la retraite.
Non, je pense pas. Je pense que c'est un réflexe naturel. On s'en rend pas compte, là, mais mettons qu'on arrive autant sur la route que dans un restaurant, on s'assied toujours dans un coin, on regarde toujours les portes de sortie.
Ah ouais.
Puis c'est souvent...
C'est de la survigilance?
Ben oui, on veut savoir ce qui est dans notre dos. Ouais. Puis c'est souvent notre femme ou nos amis qui nous le font sentir.
Parce disent... que vous autres, vous avez tout le temps vécu comme ça.
Oui, absolument.
Ouais. C'est-tu quelque chose que tu apprends, ça, en fait, ou c'est des réflexes que tu développes avec les années?
Non, tu le développes avec les années. Oh, c'est de la méfiance, tout simplement.
Hey, c'est vraiment particulier. Je suis vraiment contente qu'on reçoive Danny aujourd'hui parce que l'objectif dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est de jaser un peu des sous-policiers. T'sais, là, maintenant, tu es à la retraite. C'est sûr qu'il y a une différence de parler avec un policier en service versus quelqu'un qui a pris sa retraite. Puis on a déjà jasé de mille et un sujets qu'on va pouvoir aborder dans les prochaines semaines, prochains mois. T'sais, des affaires comme les erreurs dans les films, les séries policières qui sont frappantes pour un policier. T'sais, toutes sortes d'affaires qui vont nous amener un peu dans les dessous d'eux. Fait que si vous avez des questions, 88-971-1021, le Twitch, évidemment, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. Danny, pourquoi tu voulais devenir policier, toi?
Ben, en fait, je voulais pas devenir policier. Du tout. Non, moi, c'était pas un rêve d'enfant, loin de là. C'est parce que, faire une petite anecdote très rapide, quand j'étais jeune, je voulais être professeur d'éducation physique.
OK, on est aux extrémités, là.
Carrément. J'étais bon en sport et puis... on se tenait... Ben moi, je viens de Limoilou. Salutations à rue Vitry, rue Limoilou. Rue Villebon. J'avais un ami. On se tenait à une petite gang. On était mal commode. Puis à un moment donné, j'ai un ami au cégep qui est arrivé avec un manteau de technique policière.
OK.
Qu'on voit encore aujourd'hui. Puis là, à un moment donné, je disais, ben
ça a de l'impact, ce manteau-là.
Oui, il me semble qu'on se fait voir beaucoup. Puis on chamaille souvent dans les bars. Puis ça te tenterait-tu de l'enlever ou de le mettre le moins souvent possible? Et là, il s'est même parlé de technique policière.
Ouais.
À me dire à quel point c'était hot. Puis que lui, c'était l'élite. Puis là, je dis, arrête d'en mettre. Puis à un moment donné, il m'a dit, de toute façon, Danny, tu pourras jamais rentrer à technique policière. T'as pas des assez bonnes notes. Fait que là, il m'a mis au défi. Et puis moi, à ce moment-là, j'étudiais en technique administrative. Et à Limoilou, mais c'est pas à mon honneur. Au cégep de Limoilou, en technique, en administration, tout le monde lâchait. Fait que moi, je faisais juste mes devoirs, puis j'avais une bonne cote R, cote Z maintenant, je pense. Donc, ça m'a permis de rentrer en technique policière du premier coup.
Mais je pense que c'est le pub qui était à côté du cégep de Limoilou qui faisait en sorte qu'on lâchait...
L'Ozone! Disons que c'est là que j'ai vécu mes grosses expériences.
Ça a joué, hein?
Autant du bord que du mauvais bord de ma vie, ouais.
Mais là, t'as-tu pogné un coup de cœur rapidement quand t'es rentré en technique policière ou tu l'as fait juste parce que tu relevais le défi?
Je voulais relever le défi. La preuve, c'est que j'ai étudié en même temps à l'Université Laval la première année en éducation physique. Mais à cette époque-là, en éducation physique, bien souvent, mes collègues de l'époque, lorsqu'ils terminaient le cours, ils terminaient dans un Nautilus, entraîneur privé. Moi, c'était pas ce que je voulais faire. Puis avec la police, on se le cache pas, bon salaire, des bonnes conditions. Ouais. Regardez, je suis retraité à 50 ans, c'est pas quelque chose que j'aurais pu vivre. À part dans la police, probablement. Donc, j'ai fait la part des choses, puis j'ai décidé de continuer dans la police.
C'est quoi les raisons pour lesquelles ils vous mettent à la retraite si jeune? Hein?
Ben, en fait, c'est pas eux qui nous mettent à la retraite. On peut prendre notre retraite à 20 ans. de service, ouais. Mais avec une grosse pénalité.
Okay.
C'est pas tabou, c'est sur Internet, là, ouais. C'est public. Quand on parle d'une bonne pénalité, c'est à peu près 50% du salaire. Donc, c'est rare qu'on va voir un policier, à moins qu'il soit vraiment à bout, arrêté après 20 ans. Après 25 ans, c'est sans aucune pénalité. Donc, on a 70% de notre salaire. Donne un exemple, je suis vraiment pas tabou, puis je suis très à l'aise avec ça. J'ai terminé ma carrière environ à 115 000. 70% de 115 000, faites le calcul. Je suis très chanceux, je suis très choyé. Ouais. Puis je le sais que la majorité des auditeurs n'ont pas cet avantage-là. Mm-hmm. Puis je le sais que je suis gâté.
Mais n'en demeure pas moins que vous faisiez un métier qui était à risque, là. Votre vie pouvait être en danger parfois. Vous aviez de grandes responsabilités, tout ça. Puis de voir des policiers à 60 ans, patrouilleurs, on en voit de moins en moins. Il en reste quelques-uns. J'en ai vu un ou deux à Québec. Il y en a un petit peu plus à Montréal parce que les gars, après quelques années à retraite, ils s'ennuient. Fait qu'ils veulent revenir. Puis des fois, ils font partie d'escouades spéciales en raison de leur expérience. Fait qu'on les rembarque en tant que, je ne sais pas si c'est policier civil ou quelque chose du genre, mais comme un mot particulier pour parler de leur poste, mais on les rembarque sur des grosses escouades. Parce que les gars s'ennuient, tout simplement.
Oui, c'est des contractuels.
Contractuels.
Oui, mais à la Sûreté du Québec, on n'a pas ça encore.
Ah.
Par contre, dans le dernier contrat qu'on a signé récemment, l'ouverture est là pour signer des policiers retraités. De mémoire, je pense que ça te prend 28 ans de police pour okay. pouvoir être réembauché comme contractuel.
Ça te parlerait-tu, ça, ou moyen?
Bien, oui, mais je peux pas, étant donné que j'ai pas mon 28 ans.
Ton 28. Ans. Mmh. Et mon Dieu, c'est une question de moi quasiment, rendu là.
Ouais. C'est puis, pas grave.
Peut-être à un moment donné, la pénurie de policiers ouais, va faire en sorte ça. Qu'ils vont réduire un peu leurs demandes.
Exactement. Les règles un peu, là. Puis toi, y a-tu quelque chose qui fait que tu as décidé de prendre ta retraite? Sais-tu que tu as senti que tu avais fait le tour, c'était assez? Y a-tu arrivé un événement marquant?
Mais on fait jamais le tour, je pense, en police. On apprend à tous les jours, puis c'est toujours des événements différents. Il n'y a pas de routine. Moi, personnellement, il y a deux choses qui ont fait en sorte que j'ai décidé de prendre ma retraite jeune, parce que la majorité des policiers prennent leur retraite à 28 ans. C'est là où on maximise notre fonds de pension. La première, bien, c'est l'usure. Je ne cacherai pas qu'on a des horaires qui sont atypiques. Les dernières années de ma carrière au crime organisé, j'étais toujours de soir, de nuit. La nuit, c'est fait pour dormir, donc... Tranquillement, pas vite, je commençais à avoir de la difficulté. Et puis, j'étais quelqu'un qui était rigoureux. Donc, en étant responsable aussi, je voulais pas contaminer mon équipe de par mon irritabilité, disons. Mm. Et l'usure a joué beaucoup dans mon cas. Je me suis écouté. La deuxième chose, et c'est une chose que je déplore, mais que malheureusement, c'est partout. Dans mon cas, c'était la bureaucratie. On a énormément de rapports à remplir. Je vous fais... un aparté avec le passé. Dans le temps, on était dans un poste de police X. Après 15 minutes, on s'apprêtait à écrire nos rapports, parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, ni d'ordinateur. On s'apprêtait, dans les années 90, on s'apprêtait à les faire par écrit, au bureau. Puis 15 minutes, le boss tournait autour de toi et disait « Hey, ouais dehors. Ben oui, mais j'ai des rapports à faire. Tu es froid dans ton véhicule de patrouille. » Aujourd'hui, tout est informatisé. Tout se fait devant l'ordinateur. Donc, c'est pas rare d'avoir un patrouilleur passer une journée complète à faire des rapports devant l'ordinateur, alors que, selon moi puis selon plusieurs policiers...
devrait être sur la route.
Devrait être sur la route.
Ouais.
Voilà. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on voit moins de policiers sur la route. On est embourbé de rapports. On a débuté un allègement de rapports, de rédaction de rapports. Ça a donné quand même... ça l'a aidé un peu. Mais aujourd'hui, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de très transparent. Si tu veux avoir une promotion ou tu veux bien paraître, ben invente un formulaire, invente une formation en ligne. Fait qu'il y a tout le temps un rapport par tâche policière. Donc, ça finit plus. Puis c'est souvent deux puis trois fois qu'on va écrire les mêmes choses. Il y a beaucoup d'exigences. Le travail policier aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'avant.
Puis les papiers que vous remplissez souvent se ramassent en cours. Donc, quand il y a des erreurs, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Sinon, ça peut faire en sorte qu'un criminel pourrait être libéré en raison d'erreurs, je ne sais pas moi, de mots techniques que vous n'avez pas utilisés.
Absolument. La défense, son rôle, c'est justement de jouer sur nos erreurs, autant sur nos pouvoirs de voir en matière d'arrestation, en matière de droit au silence, droit à l'avocat. Comment que l'interrogatoire s'est passé, les aveux, comment ils ont été faits. Et puis, ça peut se faire... on peut perdre un dossier majeur sur une simple technicalité, un mandat mal rédigé. Comme vous dites, une erreur sur un numéro de téléphone, c'est fini.
T'as-tu déjà eu peur pour ta vie, Danny?
Oui.
Parce que travailler pour le crime organisé, quand t'es le responsable de la division, bon, les gars, ils commencent à savoir c'est qui les boss, c'est qui les patrouilleurs, c'est qui les intercepte. T'es-tu déjà fait suivre? T'es-tu déjà quelque chose qui est arrivé comme ça, qui a fait en sorte, OK, ben ma vie de policier est plus hardcore que je pensais?
Au niveau de la division d'intervention sur le crime organisé, je l'ai fait pendant 2 ans et demi. C'est une nouvelle création de poste qui a été faite à Québec.
Ouais.
Où est-ce que, bon, j'ai fait le processus et je suis tombé responsable d'une petite équipe. Pour répondre à ta question, Yann, c'est sûr qu'on travaille les bandes de motards hors la loi. Bandes de motards criminalisées. Et puis, on les connaît. On les connaît par leur prénom, par leur surnom, mais eux autres aussi nous connaissent. Et sincèrement, à ce niveau-là, j'ai jamais eu de menace d'un Hells, par exemple, ou d'un club supporter. Non, non. Ils connaissent la ligne, ils veulent pas ça. Donc, j'ai jamais été menacé.
Parce que t'attaquais un policier, t'attaquais un juge, t'attaquais un avocat, c'est attirer l'attention sur toi.
Mais tu as rencontré, il n'y a pas longtemps, j'écoutais l'entrevue justement, le fameux agent source de la GRC. Oui, c'était excellent. Et puis, il parlait entre autres de Mom Boucher, lui. Et puis, Mom Boucher, lui, l'erreur qu'il a faite, puis c'est vrai, il l'a dit dans ces termes-là, c'est une vraie poubelle. Mais c'est vrai, parce que moi, j'ai couvert ses funérailles, puis il n'y a personne qui est allé. Personne. À part peut-être des membres proches de la famille, mais pas vu une patch là. Et puis, Mom Boucher, lui, pourquoi, entre autres, un moteur pourra mieux l'expliquer que moi, on l'aimait pas, c'est parce que c'était un kid Kodak. C'est parce qu'il aimait avoir l'attention sur lui. Effectivement, c'est un cocaïnomane. Et puis, vous vous rappelez, il y a eu le gala Dave Hilton, où que, quand il est sorti, il était acclamé par la foule. Il vivait de standing. Mais les moteurs, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux autres, ils veulent, c'est une business. Ils veulent faire leurs affaires. Ils veulent pas se faire déranger. Ils veulent pas avoir de pression sur eux autres. Puis le moins souvent qu'ils nous voient, le mieux qu'ils sont.
Le mieux, c'est, oui.
Fait que souvent, c'était pas avec les full patch qu'on avait de la difficulté. C'était souvent avec
les strikers,
hang around, exactement. Puis les puppet, on peut plus dire ça aujourd'hui, mais les puppet clubs, ben, je me suis déjà fait reprendre par un moteur. C'est pas des clubs écoles, c'est des clubs supporters.
Ouais.
Donc,
puppet club, moi, j'aime l'expression.
Ouais, mais eux autres, ils l'aiment pas. C'est correct. Donc, eux autres, ils veulent faire le grand club. Ils veulent le faire. Donc, une des façons de le faire, ben, c'est d'agacer la police, de les écœurer. Mais quand ils vont trop loin, on connaît tellement les full patch qu'on n'a qu'à faire un regard, puis ils le savent. Que ce soit dans un gala de boxe, etc.
Danny, tu as dit tantôt que tu as eu peur, tu as déjà eu peur pour ta vie. Je peux te demander c'est dans quel contexte?
Une des fois que j'ai eu le plus peur dans ma vie, c'est pendant le sommet des Amériques.
OK.
J'étais là lorsque la clôture a tombé en 2001. J'étais sur le front line. J'étais aux enquêtes dans ce temps-là, mais il manquait tellement de monde qu'on m'a donné un casque, un bouclier, un bâton, puis un entraînement. Et puis, je vous dirais que vraiment, là, c'est peut-être la seule fois dans ma vie où c'est que je me suis dit, ouais, ça se peut qu'à soir, je ne rentre pas à la maison. La clôture a tombé, sans dire qu'on s'est fait encercler, on s'est fait vraiment approcher, on se faisait lancer des balles de billard, des balles avec des pics artisanales, des morceaux de pavé, etc.
Les manifestants qui étaient là pour les bonnes raisons. Oh, il n'y avait pas d'intention derrière.
Nous autres, on ne se doit pas de juger, mais disons que. Quand tu vois tes collègues à gauche et à droite tomber, puis toi, ça fait 2 fois que tu changes ton bouclier parce qu'il est cassé, puis qu'on me dit que l'équipement, puis c'était vrai, là, est à l'abri de tout, tu te dis, ouais, OK, je suis pas certain à 100%, mais on continue le plan, puis faut pas se sauver, faut pas appeler la police, c'est nous autres.
Tu as été dans la police pendant plusieurs années, t'as-tu remarqué que le respect a diminué dans les dernières années envers les autorités policières?
Tellement vrai.
Ouais.
Les dernières années, je les ai faites sur le terrain. Puis c'est un peu pour ça que j'avais accepté la position à l'ADICO, parce que l'ADICO, en gros, un de nos mandats, c'est de faire les bars. Avec grippe à l'époque, là, que vous avez connu, ce qui a été médiatisé et tout. C'est semblable, mais nous, c'était pour toute l'Est de la province. Donc, c'était un de nos mandats. Alors, moi, je suis retombé sur la route, par défaut, après avoir fait 24 ans d'enquête. se faire filmer, première des choses, j'avais pas vécu ça. Maintenant, c'est instantané. Je vous dirais que ça, c'est un premier changement. Un autre changement que j'ai trouvé, c'est que le respect de la police, effectivement, les gens vont plus questionner. Les gens connaissent le droit ou pensent connaître le droit, puis ils vont argumenter énormément, alors qu'avant, Tu n'avais rien qu'à te présenter, bonjour, vos papiers, puis on t'est donné tout de suite.
L'autorité faisait un job, là, oui.
Oh, oui, absolument. Mais aujourd'hui, on aime ça argumenter, on joue beaucoup sa ligne. On va aller chercher la patience des policiers énormément. Ça, je trouvais ça dur, surtout dans des bars. Tu sais, quand tu fais des bars à 6 h le soir, c'est pas si pire. Mais plus que la soirée avance, plus que le monde a un verre dans le nez. Puis à minuit, ben là, c'est plus travaillable. À minuit, c'est des gossous qui t'achalent, tout ça. Puis là, on travaille plus pour les bonnes raisons.
Parce que, Danny, les choses ont changé. Moi, mon grand-père, Joseph Rollin, était policier pour la Sûreté du Québec. Et il me racontait qu'à sa jeune époque, là, on parle de plusieurs décennies, là, à sa jeune époque, il était embauché non pas pour leurs notes à l'école, mais pour leur bon jugement. Puis pour leur stature, pour la plupart. Puis les gars étaient appelés dans un bar, Audrey, pour arrêter la chicane. Okay? Puis ça, il me l'a raconté. Il était sur sa chaise berçante avec son petit foulard dans sa poche. Puis il rentrait dans un bar, une couple de policiers, se battait avec les gars jusqu'à les assommer, les embarquait dans le véhicule de police, puis après ça, aller reconduire chez eux pour dire « Votre mari, là, il a fait du trouble à tel bar, là. On veut pas le revoir là ce soir, est-ce que c'est clair? » Puis le monsieur se faisait ramasser par la madame.
Non, puis c'est aujourd'hui, c'est... ça aussi, c'en est une différence. Tu peux plus voir un policier se battre avec un citoyen.
Avec les cellulaires, ce serait impossible. Non, les techniques ont changé, puis les choses se sont améliorées. Mais dans le temps, c'était comme ça. Il pognait un gosse sous sa route dans les années 60. Là. Il disait, là, tu vas laisser ton char là. T'embarques dans le char, on va aller te porter chez vous. Puis c'était la bonne femme qui réglait le problème. C'était la bonne femme, la prison. Là.
J'ai vécu ça.
Ah,
au
oui,
début
oui.
de ma carrière, oui, ouais, à Gatineau, entre autres, quand j'ai commencé en 97, là... Souvent, on allait dans un bar. Moi, j'étais tout le temps le plus petit de la gang, avec des lunettes en plus. Puis les vieux de la vieille, là, qui étaient en fin de carrière, ils réglaient ça de même. Ils chamoyaient, ils se faisaient essayer, mais tout ça faisait... À cette époque-là, il y avait quand même un respect. Ça se faisait de façon legit, genre, tu veux te battre, OK, c'est beau. Puis après ça, c'est fini. On va aller te porter chez vous. Tu vas avoir un constat parce qu'il faut bien que je te donne de quoi pour avoir troublé la paix dans un lieu public. Merci, bonsoir. Puis c'était la dame qui s'occupait du mairie ensuite. Là.
Ça fait pas si longtemps que ça. Il me dit, Danny nous dit 97. Là.
Ouais, mais c'était à sa fin.
26 ans, tu sais.
Puis tu sais, les capacités affaiblies, oui, pas moi, mais ça arrivait des fois que c'était laissé au bon jugement des policiers.
Ouais.
Regarde, on laisse ton véhicule là, puis tu reviendras le chercher demain, puis on va te reconduire chez vous.
C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de pitié et plus de pardon.
Non, hein.
On ne peut plus faire ça, on pourrait perdre notre travail pour ça.
Ah, c'est ouais.
un acte criminel.
En raison du fait que c'est un acte criminel, vous pourriez même être poursuivi pour avoir laissé passer ça?
On pourrait être amené en discipline, absolument.
OK.
Oh, oui, puis il y en a qui ont déjà perdu leur travail à cause de ça.
Je trouve pas ça négatif, là, personnellement. Là.
De?
Ben, je veux dire, dans le sens que c'est correct pour moi qu'un policier puisse perdre son travail s'il n'y a pas le bon jugement quand quelqu'un est alcoolique au volant, là. C'est-tu ouais. moi ou...
Non, c'est correct.
Moi, je trouve que ça fait du sens. Il me semble que ça ait changé.
On est rendu là en 2024.
Ben, je pense que oui.
Je suis très à l'aise avec ça. Vous n'avez plus de chance. T'sais, prenez plus de chance, vous n'en avez plus.
Ben, ça revient encore au cellulaire. Ouais. J'ai un collègue, là... Je ne peux pas nommer d'année, là, mais ça ne fait pas très longtemps. Il s'est fait prendre. C'est une capacité affaiblie. Il s'est endormi dans son véhicule. Puis c'est ses propres patrouilleurs, ses propres collègues qui l'ont arrêté. Mais il n'avait pas le choix. S'il fermait les yeux là-dessus, ben regarde, pourquoi ce policier-là aurait plus d'avantages qu'un honnête citoyen qui, un soir, fait une erreur, prend son véhicule?
Bonne question sur Messenger, M. Danny Morissette, ancien policier de la Sûreté du Québec. Pourquoi les policiers frappent au petit matin? Quand il y a des descentes?
Ah, c'est une excellente question.
C'est rare que les gars dorment habillés, hein?
Ouais! C'est rare qu'à 4 heures, à part certaines personnes qui ne sont pas à maison. Je vous dirais, on fait beaucoup, lorsqu'on fait des perquisitions dynamiques, on fait toujours appel au groupe d'intervention tactique. Les raisons stratégiques, je peux en parler, là, il n'y a pas de surprise là-dedans. C'est de s'assurer, premièrement, que là où les suspects sont présents sur les lieux, un. Deux, il y a l'effet de surprise à la noirceur. Bien souvent, là, c'est le matin, 5-6 heures.
Les gars sont engourdis aussi.
Sont engourdis. Donc, au niveau de la sécurité, c'est mieux aussi pour nous. C'est plus facile d'arrêter quelqu'un qui dort que d'arrêter quelqu'un qui essaie de se sauver tout habillé.
Ouais.
Donc, ça y va. Puis au niveau... Souvent, quand on parle du crime organisé, quand on parle de trafiquants de stupéfiants, il y a toujours des armes à feu reliées. Donc, c'est dangereux. Ça met toutes les chances de notre côté. Fait que,
c'est la raison.
C'est la raison pour laquelle il frappe au petit matin.
Oui, 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 toutes ces raisons.
Okay. T'en as fait, Danny, des choses dans ta carrière. T'sais, on a fait le tour tantôt, le responsable à la division de l'intervention sur le crime organisé à Québec, mais responsable aussi des enquêtes pendant de nombreuses années. Bon, crime majeur, GRC, Interpol et compagnie. Et qu'est-ce qui te le fait le plus triper dans ta carrière? Parce que je crois comprendre qu'il y a pas mal de métiers à l'intérieur même du corps policier. Là.
Moi, ce que j'ai aimé le plus dans ma carrière, je pense... Il faut que je sois spontané. Je vous dirais que c'est mon réseautage. J'ai eu la chance de connaître du monde partout en province. J'ai eu 13 transferts. Et puis, c'est comme ça que je suis reconnu un peu à l'interne. C'est que si jamais on a besoin de quoi à Hydro-Québec, je sais où puncher. Autant à l'externe qu'à l'interne. Si jamais on a besoin de quoi au poste de police de Trois-Rivières, je sais où appeler, etc. Donc, pour moi, le réseautage, là, puis c'est ça que je disais aux nouveaux policiers, c'est primordial. C'est le nerf de la guerre. Puis de partage d'informations aussi. Donc, ça me faisait énormément triper, comme tu dis. Et puis, un peu moins maintenant, je vais être prudent, mais avant, c'était la solidarité policière. Un policier qui se faisait menacer, qui se faisait écœurer. Moi, je me suis déjà fait lancer une brique dans ma fenêtre chez nous. C'était tolérance zéro, puis intervention immédiate. Puis souvent, tu sais, c'était une gang de police. Encore récemment, on avait un policier à Saint-Féroul-les-Neiges qui se faisait intimider. À tous les jours, il arrivait chez eux, ses poubelles étaient virées à l'envers, tout ça. Il n'était pas à l'aise de vivre chez eux. Il se sentait emprisonné. On l'a réglé le problème. Puis ça ne s'est pas fait rien que moi tout seul, ça s'est fait une gang. Ça, c'est de la solidarité policière, on se tient. Mais aujourd'hui...
Ça se perd un peu.
Oui, mais comme dans n'importe quel milieu, je pense. C'est de moins en moins là. On a tellement de règles à respecter et tout, qu'on dirait que les gens ils se tiennent moins.
J'ai une question, puis écoute, je sais même pas si tu peux répondre, là, mais je me demande s'il n'y a pas un peu de positif pour le citoyen dans le fait que la police se tient moins. Je te donne un exemple, l'histoire de Christian Lachance qui a été très médiatisée dans les dernières semaines, où on a quand même remis en question tout ce qui était fraternité policière sur le fait qu'il y avait eu quand même agression sexuelle. Tu penses quoi de ça?
Bien, les crimes contre la personne, agression sexuelle, tentative de meurtre, etc., c'est tolérance zéro. Peu importe qui l'a fait. Un policier qui fait ça, écoute, je ne me souviens plus si Christian avait été sentencié ou pas encore, là, parce qu'il y en a deux Christians dans la ville de Québec. Mais, tu sais, il faut être prudent, parce que si le dossier n'est pas terminé, je ne peux pas nécessairement me prononcer. Mais si c'est vrai ce qui est arrivé, puis à moins que je me trompe, c'était avec des collègues policiers aussi.
Oui, oui, c'était dans une Stastonam, si je ne me trompe pas. Puis il est coupable, là, en passant. Là.
OK.
Mais oui, c'était une affaire de boisson, là, puis ça, c'était malheureusement mal terminé. Là.
Bon. Ben à ce moment-là, s'il est coupable, il va suivre la justice. Puis dites-vous une chose, il est coupable aux yeux du public, mais souvent à l'interne, ça fait encore plus mal.
Ouais, il ne pourra plus jamais être policier.
Il ne pourra plus jamais être policier, puis il va être étiqueté le restant de ses jours à l'interne.
Ouais,
fait que ce sentiment de fratrie-là n'existe pas quand ça arrive à l'interne. Il y a quand même un jugement.
Oui, ouais, absolument. Mais dans tout, je reviens sur mon gars qui a eu une capacité affaiblie. Il se fait encore juger aujourd'hui. On est policier, on le sait, qu'est-ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Là.
Mais vous êtes censé être l'exemple, en fait, c'est à tous les niveaux. Là.
Voilà. Danny Morissette, travailler à Interpol, ça représente quoi, en général?
Interpol, bien...
Une police internationale?
Oui, même mondiale.
Ouais.
Moi, j'étais à Interpol à Ottawa. Okay. Et puis, j'étais dans une branche d'Interpol qui est le Service canadien de renseignement criminel. Qui est...
Le CRS.
Le CRS, exactement, oui. Et puis, moi, j'ai adoré ça. Interpol, c'est pas comme dans les films, là, c'est plate pour, pour ceux qui écoutent. Là. J'étais pas bien en noir avec des lunettes fumées à me promener agent secret un peu partout.
C'est sûr que ta première journée arrivée au bureau de même, t'as dû te faire juger un peu.
on m'avait averti avant.
Imagine le gars.
Non, c'est une agence de voyage. J'ai voyagé partout dans le monde. Quand on est à Sûreté du Québec, le plus loin qu'on peut aller, c'est dans la province.
Ouais.
Mais là, avec cette belle opportunité-là, j'ai été partout.
Ils vous demandaient quoi, Interpol? C'est quoi les dossiers que tu avais avec Interpol?
Bien, à la fin, à Interpol, j'étais responsable de la stratégie des tiers au niveau des bandes de motards hors la loi. On avait des experts dans chaque province canadienne, que ce soit au Québec, admettons, au SPVM, à la SQ, à Laval, Longueuil, etc. C'était nos experts. mais aussi dans les autres provinces canadiennes. Et les motards, les Hells, au Québec, ils ont l'obligation de faire ce qu'on appelle les First Run au Québec et les Ward Run aussi une fois par année, qui est dans un pays différent chaque année.
Faire des démonstrations de force. Là.
Des convois, oui, le gros party, de la fraternité, tout ça. Mais souvent, des autres pays, je donne un exemple, je suis allé au Danemark, ils ne connaissent pas les Hells du Québec puis ils ne savent pas s'ils sont recherchés ou quoi que ce soit. Donc, ils nous font venir et puis nous on s'occupe d'identifier nos participants. Et puis, ça faisait partie de mes tâches. En plus de tout ce qui est...
Tu identifiais tes participants? Tu leur donnais-tu des petits coupons, là, comme ils donnent à l'entrée, là?
Ah, non!
Non, non! L'image est belle, par exemple!
Ah, oui.
Non, c'était vraiment du renseignement criminel.
OK.
En fait, on voulait savoir qui allait là. Puis souvent, ça nous donnait une idée aussi qui c'est qui prenait... qui montait les steps.
Le lead.
Qui prenait du pouvoir à l'interne.
Tu pouvais voir les affiliations, là. Tel groupe est avec tel groupe.
Absolument aussi. Parce que chaque... Il y a 5 chapitres de Hells Angels au Québec.
Ouais.
Et chaque chapitre a son club supporteur officiel. À Québec, moi, c'est le Red Devil. Ailleurs, à Sherbrooke, c'est un autre club. Je pense que c'est les Gitans, je ne me souviens plus. Mais il y en a un à chaque place. Donc, mais parfois, ça change. Donc, ça, c'est une phase de renseignement qui nous intéressait beaucoup, beaucoup.
Danny Morissette, as-tu été surpris? On est un peu plus d'actualité, mais ça date de quelques mois. Mais as-tu été surpris à quel point les motards de Québec ont été fragilisés par un petit cul d'une gang de rue d'à peu près une trentaine d'années qui avait des acolytes ultra-violents? Est-ce que ça t'a surpris de voir qu'il y a des motards qui... des aspirants motards, dont des hang-around ou encore des strikers, qui disaient, Wells, là, nous, on va prendre une petite pause pendant un certain temps parce que nos familles sont en train de se faire menacer puis je veux pas qu'il arrive à rien à mes enfants. Cette petit aparté-là qu'on a eu dans l'histoire là, de la guerre, de la drogue à Québec, moi, ça m'a grandement surpris parce que j'ai toujours cru que les motards emmenaient large à Québec. Là.
Oui, j'étais surpris au début. Surtout de voir que, pas au niveau des Hells, mais au niveau de certains clubs supporters, il y en a qui ont eu tellement peur qu'ils ont remis le veste. Chose qu'on ne voyait pas ou très peu avant parce qu'on le sait, sortir d'un club de motards, tu sors soit en good ou en bad standing.
Mm-hmm.
Mais normalement, tu sors. Tu ne peux pas sortir de là. C'est rare. Donc ça m'a surpris. Ensuite, on les a rencontrés. Parce que là, ça se poursuit encore aujourd'hui, surtout dans l'est de la province. Les gars avec qui je travaillais sont tout le temps rendus à Sept-Îles, Baie-Comeau, au Saguenay aussi. Les motards, là, ils n'en veulent pas de flash sur eux autres. Puis oui, c'est un petit cul, le Pic Turmel, puis chose qui est au Saguenay, Lac-Saint-Jean aussi, là, dont j'oublie le nom, qui est recherché.
Al-Boivin,
c'est ça.
Hey, là, j'étais allé au Cégep, moi, au Saguenay, puis je me disais, je me prenais dans les rues le soir, puis j'avais peur de le croiser. Là. On entendait tellement parler d'Al-Boivin.
Ah oui, c'est une bonne pièce d'homme, lui puis UFC, qui ont fait la pluie puis le beau temps là-bas. Mais quand on parlait au moteur, puis on lui disait, là, faudrait que ça cesse, tout ça, bien, eux autres, là, ce qu'ils veulent pas revivre, là, c'est un autre Sharks. Ils veulent pas rembarquer là-dedans. Parce que même si, en bout de ligne, Sharks a été un demi-succès, un demi-échec, on a quand même arrêté 111 là-dedans. Puis il y en a qui ont fait de la prison.
Il y a eu Carcajou, puis il y a eu Sharks.
Oui.
Carcajou, c'était dans les années 90?
Oui, bien, il y a eu Printemps 2001.
Oui.
Opération Printemps 2001, en 2001. Puis après ça, tu as eu l'opération Colisée en 2005, qui était plus la mafia. Puis après ça, tu as eu Sharks.
OK. Puis ça, c'est ce qui leur a fait peur, parce qu'ils n'avaient plus le droit d'avoir leur couleur.
Exact.
S'ils se faisaient prendre avec leur couleur, je pense que c'était un 10 ans minimum.
Je peux pas...
De mémoire, c'était ça.
Mais aujourd'hui, ils ont le droit de les avoir, leur couleur.
Oui, ils ont retrouvé ce droit-là.
Oui.
Quand tu regardes, Danny, ta carrière, là, parce que là, c'est tout frais, cette retraite-là, là, on a parlé de mai tantôt, l'histoire la plus marquante, que ce soit positif ou négatif, là, puis je t'explique un peu d'où vient ma question. Moi, j'ai pogné vraiment un trip dans la dernière année sur le livre « Cœur policier ». Je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est une journaliste qui est mariée avec un policier. Elle a décidé carrément de prendre... Elle a fait deux tomes, 30 histoires par tome, puis c'est vraiment juste écoute, ça se lit tellement bien parce que chaque policier, dépendamment de l'histoire, peut être identifié ou non, là. Puis là, ben, tu sais exactement exactement c'était dans quel secteur, en quelle année, raconte l'histoire de son point de vue. Il y en a que c'est ça a été leur première histoire en carrière, il y en a que ça a été la dernière, tu sais. Puis ça va du plus tragique au plus beau. Puis la question est simple comme ça, sans trop la diriger, tu sais, l'histoire la plus marquante de ta carrière. Puis on dirait que j'avais vraiment envie de te la poser.
Écoutez...
Il doit en avoir une coupe.
Il y en a plusieurs qui me passent en tête, mais la plus marquante, vraiment, parce que je suis encore marqué aujourd'hui de cette histoire-là, ça fait tellement longtemps. C'est au début des années 2000, à Lebel-sur-Quévillon. Ça avait passé dans les manchettes, ça fait tellement longtemps. Il y a eu une grosse vague de suicides. Moi, à ce moment-là, j'étais enquêteur de poste, puis j'étais aussi préposé intervenant en milieu scolaire. Donc, le soir, souvent, je joue au badminton avec les jeunes. Puis Lebel-sur-Quévillon, c'est environ 3 3500 habitants. Donc, tout le monde se connaît.
Petite bourgade.
Ouais. Et en l'espace de 10 mois, il y a eu 6 suicides de jeunes en bas de 17 ans. Je les connaissais tous, les 6. Et puis, j'étais jeune policier. J'étais nouvellement enquêteur. J'avais 26 ans. Et puis, c'est tous des suicides par pendaison. Et là où c'est que la goutte a débordé le vase, c'est le dernier suicide. Deux semaines auparavant, il y avait un jeune qui s'était suicidé avec sa ceinture de judo. Et deux semaines après, son cousin de 11 ans. Et 11 ans. Vous regarderez dans les sur Google, là, tout est public, l'a imité. Ça, sur le coup, je vous dirais, moi je pourrais vous expliquer
c'est
ça.
C'est de l'incompréhension.
Ouais, mais quand tu as 25-26 ans... enquêteur, tu te penses invincible. Tu sais, je suis pas gêné de le dire aujourd'hui à mon âge et tout. Puis les jeunes encore aujourd'hui, tu sais, oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Oui, je suis dans la police, puis je suis... Donc, moi, je m'étais dit, sur le coup, ouais, mais ça fait partie de la vie, puis tu sais, c'est de l'apprentissage. Donc, ça m'a pas marqué nécessairement sur le moment. Deux ans plus tard, puis c'est drôle, c'est quelque chose que je parlais très, très peu avant. Ma femme l'a su... il y a quelques années, ces images-là me sont revenues. Et puis, je me réveillais un peu comme dans un film, en sueur, puis je les voyais, écoute, ça peut sembler bizarre, là, mais flotter au-dessus de ma tête. Et à cette époque-là, les chocs post-traumatiques, mais ça existait peu ou pas. Mm-hmm. Moi, le docteur m'avait dit que j'avais des obsessions idéatoires. Bon, il m'avait prescrit des médicaments, puis encore aujourd'hui, je vous cacherai pas, ça me prend ma petite pilule pour dormir la nuit.
Oui.
Ouais, c'est ma béquille à moi. Puis
ça, c'est important que la population le sache. Tu sais, des fois, on a l'impression que les policiers, ils ont une job comme toutes les autres, alors que vous voyez des affaires que personne ne veut voir. Tu sais, policiers, ambulanciers, pompiers, ces gens-là voient des trucs que toi et moi, on ne voudrait jamais voir dans notre travail. Puis vous avez à vivre avec ces images-là. Puis bien souvent, vous décompensez pas avec la conjointe ou le conjoint à la maison parce que vous ne voulez pas les achaler avec ça, tu sais.
Bien, c'est parce qu'ils ne vivent pas le... Ils connaissent pas nécessairement le milieu. Oui, on veut pas les achaler avec ça, mais on va beaucoup plus se confier en collègues de travail.
Mais c'est parce que c'est dur à... Je t'entends, puis on dirait que je deviens super empathique, mais c'est dur à imaginer. Tu sais, dans le sens que je me mets à la place, mettons, de ta conjointe. Là, nous autres, on sait pas de quoi ça a l'air, un pendu. On est chanceux de jamais, tu sais, avoir eu à voir ça. Fait que c'est dur de comprendre. Fait que j'arrive à saisir quand même le fait que c'est entre collègues que ça se passe un peu plus. Ma prochaine question va concerner évidemment, le support. Est-ce qu'il y a une évolution en travail maintenant par rapport au sérieux qu'on peut donner à ce genre d'événement-là? T'sais, est-ce qu'à l'époque, malgré la